Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Pour faire les bons choix dans la vie, nous avons besoin de sagesse. Mais où la trouver?
Pour en savoir plus, écoutez tout de suite notre série sur les proverbes. Yann, rappelez-nous le sujet de discussion pour aujourd'hui.
Nous allons parler de la sexualité, car la sexualité fait partie de nos vies. Certains trouvent qu'il est difficile d'en parler. Cependant, la Bible en parle, notamment dans le livre des Proverbes, et nous n'allons pas esquiver ce sujet. La dernière fois, j'ai annoncé que plusieurs personnages apparaissent et reviennent à plusieurs reprises dans les Proverbes. Ils interviennent pour illustrer la définition de la sagesse. Nous devons donc tirer leçon de leur exemple.
Oui, je m'en souviens. L'un d'entre eux est la femme adultère. Si nous parlons de la sexualité, je comprends que nous allons aborder ce sujet à partir des passages dans les proverbes la concernant.
C'est exact. Lisons d'abord un des textes des proverbes où cette femme apparaît.
Mon fils, sois attentif à la sagesse que j'enseigne. Les paroles d'une femme adultère sont aussi sucrées que le miel et plus douces que l'huile. Mais la fin qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. La conduite de cette femme mène à la mort, ses pieds descendent vers la tombe. Éloigne-toi d'une telle femme et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison. Sinon, elle t'enlèvera ton honneur et ta vie sera détruite par un mari sans pitié. Tes biens profiteront à des étrangers, ton salaire ira à un inconnu. Finalement, tu seras complètement épuisé et tu gémiras.
Lisons à présent un autre extrait, encore plus explicite sur les activités séductrices de cette femme.
Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa et le regardant droit dans les yeux dit « Je cherchais à te voir et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couvertures et d'étoffes brodées de fils d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens !» Grisons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux délices de la volupté, car mon mari n'est pas à la maison.
Le sage qui a rédigé les proverbes conclut cet épisode ainsi.
Il se mit aussitôt à la suivre comme le bœuf qui va à l'abattoir et comme un oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie.
L'auteur du livre, ayant exposé les dangers de l'infidélité, nous encourage à la fidélité envers une seule femme, et dans ce cadre seul, il présente la sexualité comme quelque chose de formidable.
Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans les rues? Qu'ils soient pour toi seul. Ne les partage pas avec des étrangers. Fais ta joie de la femme que tu as aimée et que tu sois sans cesse épris de son amour.
La Bible n'enseigne pas que les relations sexuelles sont mauvaises en elles-mêmes, mais qu'elles doivent être pratiquées seulement dans le cadre d'une relation fidèle, celle du mariage. La Bible dit qu'il faut s'abstenir des relations sexuelles avant le mariage et rester fidèle à son conjoint une fois marié.
Je voudrais revenir sur l'image de cette femme séductrice dépeinte par les proverbes. Je crains que l'on ait tendance à faire tomber la faute, surtout sur les femmes, et à penser que les hommes sont les faibles victimes de leur pouvoir d'attraction. Qu'en pensez-vous?
Vous avez raison de soulever cette question. Les proverbes présentent un cas parmi les dangers de la mauvaise conduite sexuelle, mais il y en a bien d'autres. Je pense que nous devons voir dans cette femme décrite par les proverbes une image de toute personne, homme ou femme, qui cherche à séduire pour en attirer d'autres vers les relations illicites. Il y a des femmes qui ressemblent beaucoup à la femme des proverbes que nous avons lus aujourd'hui. Mais bien sûr, nombreuses sont celles qui ne lui ressemblent pas. Je dirais même que ce sont les hommes qui sont le plus souvent coupables. Plus que les femmes, les hommes recherchent les relations sexuelles illicites. Et malheureusement, les hommes s'imposent souvent de force sur des femmes non consentantes. Certains hommes prétendent avoir le droit de prendre toutes les femmes qui semblent leur plaire. La Bible est contre de telles pensées. Les femmes sont des personnes, des êtres à part entière, et non des objets.
Ce sont donc les hommes, aussi bien que les femmes, qui doivent se remettre en question à ce sujet. Mais pourquoi la Bible nous met-elle en garde contre l'infidélité? Quels en sont les dangers?
Ces petites histoires racontées à titre d'exemple ou d'avertissement dans les proverbes sont riches de réalité. Les plaisirs sexuels attirent fortement, mais ils conduisent à la ruine. Les proverbes en évoquent plusieurs conséquences désastreuses. D'abord, l'infidélité est à l'origine de nombreux conflits au sein des familles touchées. Elle est la cause de beaucoup de cœurs brisés. La confiance qui existait entre époux disparaît, et il devient difficile de reconstruire un mariage après un adultère.
Les séquelles relationnelles sont sans doute les plus graves. Des familles sont déchirées et les blessures durent toute une vie parfois. Cependant, les proverbes évoquent d'autres conséquences à ce péché d'adultère. Des conséquences qui touchent à l'honneur, les finances, la santé par exemple.
C'est juste. Les conséquences désastreuses se rajoutent les unes aux autres pour conduire à un véritable cauchemar de malheur. Par exemple, fréquenter une prostituée coûte cher et pour une famille aux moyennes modestes, cet argent dépensé serait bien utile ailleurs. Gaspiller de l'argent ainsi contribue à plonger davantage une famille dans la pauvreté. Pensez aussi au risque d'attraper les maladies sexuellement transmissibles que l'on peut ensuite transmettre à son tour à d'autres. Que de vies gâchées, que de souffrances engendrées à cause de la pratique irresponsable de la sexualité.
Justement, beaucoup de nos pays sont frappés par l'épidémie du sida. Les morts et les malades se multiplient, et ce sont souvent les jeunes qui sont emportés par ce fléau.
Oui, le sida se transmet entre autres par voie sexuelle. L'infidélité, la multiplicité des partenaires sexuels, la fréquentation des prostituées fait courir un risque important. Le risque d'attraper cette maladie, le risque d'être ainsi précipité vers une mort lente et pénible. Force est de constater que la meilleure façon de se protéger contre ce fléau est de respecter l'enseignement biblique sur les relations sexuelles.
C'est-à-dire qu'il faut rester fidèle à son époux ou son épouse, qu'il faut s'abstenir de toute autre relation sexuelle.
C'est exact. Dieu nous a créés pour jouir des relations sexuelles, mais seulement au sein du mariage. Comme en toute chose, les problèmes et les ennuis arrivent lorsque nous ne respectons pas les directives du Créateur, autrement dit, les lois de Dieu. Le pire des dangers n'est pas le sida en lui-même. Le pire des dangers est de rencontrer la désapprobation de Dieu, son jugement et son châtiment. Cette femme adultère décrite dans les proverbes nous avertit de ce qui se passe quand il est fait mauvais usage d'un beau cadeau de Dieu.
Nous vous remercions pour ces rappels sur ce sujet délicat. Cependant, après cet avertissement, introduisons une note d'espoir.
Vous avez pu, par votre propre inconduite ou bien par l'inconduite d'un être cher, vivre certaines de ces conséquences malheureuses évoquées lors de notre discussion sur la sexualité. Vous pouvez souffrir de blessures, ressentir de la culpabilité ou de l'amertume. Vous craignez peut-être pour votre avenir ou vous avez peur de Dieu. Or, nous voulons vous dire que tout n'est pas perdu. Nous voulons vous dire que l'évangile de Jésus-Christ laisse la porte ouverte à l'espérance. Et pour rappeler cette espérance que seul Jésus donne, Hélène va nous lire quelques versets de l'évangile de Luc au chapitre 7, versets 36 à 50.
Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Elle avait apporté un flacon rempli de parfum. Elle se tint derrière Jésus, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Ensuite, elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait du parfum sur eux. Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvée. Va en paix. »
Ayant parlé des dangers des relations sexuelles illicites, il est maintenant nécessaire de montrer l'espoir que Jésus peut offrir à ceux et à celles qui sont tombés dans ce piège et qui en souffrent. Nous venons de lire le récit d'une femme connue pour sa vie dissolue. Elle vient manifester sa profonde reconnaissance à Jésus. Cette femme est-elle une prostituée? A-t-elle eu des relations adultères? Jésus est chez un homme, nommé Simon, au moment où elle surgit dans la pièce. Simon ne cache pas son mépris ni son dégoût pour cette femme. C'est un homme pieux et respectable, et cette femme, pour lui, mérite toutes les conséquences malheureuses de sa vie déréglée. Pour lui, elle ne retrouvera jamais de place dans la présence de Dieu. De toute évidence, cette femme est consciente d'être sur une mauvaise voie, d'avoir mal agi, d'avoir gâché sa vie. Et elle voit en Jésus un espoir pour une vie meilleure, un espoir qu'elle ne rencontrera nulle part ailleurs. L'inconduite sexuelle peut engendrer beaucoup de sentiments négatifs, dont la culpabilité, l'amertume et les craintes. Parfois, les conséquences de ces actes et les émotions qui les accompagnent sont très lourdes à porter et empêchent de nombreuses personnes de mener une vie épanouie et heureuse. On ne voit pas forcément d'issue à ce problème, d'autant plus que ce sujet est tabou et que l'on peut rencontrer l'incompréhension et le mépris. Ne vous faites pas d'illusions, Jésus désapprouve l'inconduite sexuelle. Toutefois, à ceux et à celles qui reconnaissent leur tort et qui veulent en sortir, il offre un espoir. Selon le texte lu, la femme qui est venue voir Jésus a trouvé auprès de lui le pardon, le salut et la paix. D'abord le pardon. Jésus déclare que ses fautes passées, aussi graves soient-elles, sont effacées. Quand Dieu nous pardonne, cela signifie qu'il ne tient plus compte de nos péchés, que la condamnation est levée. Nous ne subirons plus le châtiment mérité par notre inconduite, car Jésus l'a porté à notre place. Ensuite, le salut. Auparavant, cette femme était exclue des promesses de Dieu. Mais désormais, puisqu'elle est pardonnée, ce n'est plus le cas. Elle bénéficie de toute la grâce et de la miséricorde de Dieu. Elle commence une nouvelle vie où elle peut marcher en communion avec Dieu vers l'espérance de la résurrection et la vie éternelle. Enfin, la paix. Puisque grâce au pardon de Dieu, on peut être libéré de toutes les émotions et pensées qui torturent l'âme et l'esprit, on peut trouver grâce à la présence de Jésus une paix intérieure qui permet d'aborder la vie avec un nouvel élan de confiance et de joie. Quelle que soit l'inconduite qui a marqué notre passé, Jésus nous offre un nouveau départ dans la vie. Il suffit de se tourner vers lui avec foi et reconnaissance. N'oublions pas toutefois qu'en se tournant vers Jésus, nous devons forcément nous détourner de nos fautes afin de poursuivre une nouvelle vie caractérisée par la recherche de la pureté et la maîtrise de soi. Si cela semble au-delà de nos forces, nous avons l'assurance que Jésus nous apportera son secours, car il sera présent dans nos vies par son esprit.
Notre désir est que Dieu vous accorde sa sagesse afin que vous puissiez faire les bons choix dans la vie quant à la manière de se comporter devant lui et devant les hommes. Sur ce, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.